Lire au Café des Psaumes, un rendez-vous culturel sur Radio J, présenté par Antoine Spire.
Bonsoir à tous, c'est Livre au Café des Psaumes, Livre au Café des Psaumes où je reçois cette semaine Dominique Bourrel. Dominique Bourrel, bonsoir, vous êtes au CNRS, directeur du Centre de Recherche Français de Jérusalem, vous l'avez été de 1996 à 2004, vous êtes professeur invité à l'Université Humboldt de Berlin en 2012-2013, et puis vous avez mis près de 20 ans pour achever une formidable biographie de Martin Buber. Vous avez étudié minutieusement l'immense correspondance, plus de 50 000 lettres reçues et envoyées par Martin Buber. Vous avez interrogé les archives des grandes bibliothèques mondiales de Londres à Jérusalem, de Vienne à Stockholm, en passant par Berlin ou encore Uppsala. Vous avez recueilli des témoignages, bien sûr, de tous les élèves de Martin Buber. On peut dire que c'est un travail absolument gigantesque que vous avez fait. Mais ce n'est pas pour parler de ce travail dont on avait déjà parlé que vous êtes avec nous. C'est parce que vient de sortir aux éditions de l'Éclat un petit bouquin. C'est des articles de Martin Buber que vous avez préfacés. Ça s'appelle « La souveraineté invisible, perspective sur une humanité qui vient ». Et vous avez écrit la préface. Alors peut-être on peut rappeler d'abord qui est Martin Buber. En fait, on peut dire qu'avec Freud, Einstein, avec Kafka, c'est l'un des penseurs juifs les plus connus du XXe siècle. Il était né à Vienne, il avait passé son enfance en Galicie, parcouru l'Europe dans sa jeunesse, et très vite, il est devenu une figure majeure du judaïsme allemand et du premier sionisme. Il s'est installé à Jérusalem en 1938. Est-ce qu'il avait la prescience de ce qui allait arriver ?
Alors je crois pas du tout. Vraiment, je crois que pas du tout. D'ailleurs, la raison pour laquelle il s'est installé si tard, c'est qu'il est, comme beaucoup de gens de sa génération, il a cru que ça allait se tasser, comme on dit. Hein. Il disait « le crachat va s'arrêter ». Et donc, il avait été régulièrement en Palestine mandataire. Il avait beaucoup de ses élèves et de ses étudiants qui y étaient. Mais je pense que quand il s'installe, il a 60 ans. Hein. Donc il a dû penser que soit il allait échapper à cela, soit... Mais... de cette espèce de retournement de la culture allemande contre elle-même, c'était impensable dans sa tête, puisqu'il en était un des plus grands représentants.
Alors on peut dire que c'est non seulement un très grand philosophe de l'altérité, tout le monde se souvient de « je tue »,« je et tu », de la piété mystique, bien sûr, et je pense au récit hassidique, du dialogue judéo-chrétien, puisque deux types de foi, ça s'appelait « deux types de foi », mais il est aussi, je dirais, le héros infatigable d'un sionisme humaniste, cherchant sans cesse la paix avec les Arabes et en même temps un dénonciateur du totalitarisme hitlérien et du totalitarisme stalinien. On peut dire que c'est quelqu'un qui est, au fond, a vu juste dans l'ensemble du siècle.
C'est ça, c'est pour ça que c'était une vraie grâce, si je puis dire, de travailler sur une figure comme ça, parce que on dit toujours pourquoi on écrit des biographies, il faut quand même non seulement un minimum de sympathie et de hasard qui fait, vous l'avez très bien rappelé, qu'on rencontre les papiers, les élèves, etc. Mais à la fin, et pas seulement à la fin, il y a une véritable empathie, quoi. J'avais l'impression que c'était mon grand-oncle ou un grand-père qui me promenait dans le monde de Stefan Zweig et dans une Europe entièrement disparue. Et je dois dire que si j'avais pas eu un éditeur et une épouse qui commençaient à en avoir marre de voir du Buber un peu partout, j'aurais bien continué un peu, parce que je pourrais vous dire tout ce qui manque, tout ce que j'ai trouvé après, tout ce que je continue de retrouver. Et c'était un vrai drame d'être obligé d'arrêter, quoi. Mais enfin, quand même, il fallait mettre un point final.
Alors Dominique Bourrel, venons à ce livre, ce petit bouquin qui contient des articles de Martin Buber. Je dois dire que j'ai pas très bien compris la logique qui rassemble tous ces articles. Alors on commence avec un article sur un cas concret qui renvoie à la mythologie des Bretons, Arvif. Arvif, c'est au livre vivant. Comme si, en fait, Buber partait de ce cas pour arriver à une idée générale sur les enjeux de l'écriture d'un véritable livre qui serait affaire de risque, de littérature et de maîtrise, dit-il.
Oui, c'est tout à fait ça. Parce que le terme important là-dedans, c'est pas seulement la souveraineté, mais c'est invisible. Parce que, par exemple, même moi, la première fois que j'ai lu ce texte bretonnant, bretonnisant, je me suis dit, là, c'est un peu exagéré quand même. Je veux bien que les gens soient cultivés, mais il n'y a pas de raison qu'ils soient rentrés dans cette mythologie. C'est d'ailleurs la même histoire qui est arrivée à Louis Massignon. Donc, ce qui est intéressant dans ce choix de texte, c'est ce qui est, vous avez vu, l'autre texte s'appelle aussi le gardien, le chef, Heimliche Führer. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible. Et je crois que ça l'a intéressé. Le débat avec Gandhi, c'est aussi pareil, parce que Gandhi, au début, il a été un fanatique.
On va y revenir, voilà. Parce que c'est le texte le plus fort.
Vous avez
c'est le texte le plus fort,
voilà,
de ce recueil.
Et ça fait bien longtemps que je pensais qu'on aurait même pu uniquement, mais peut-être il était trop juste. Et dans ces cas-là, c'est compliqué, l'affaire de Gandhi, parce que c'est quelqu'un qui adore Buber et quelqu'un qui adorait Gandhi. Tous ces intellectuels juifs et même allemands adoraient Gandhi. Et puis à la fin, ça se termine très mal, comme vous savez. Donc je pense que le côté invisible, le côté justement d'une autre manière de faire de la politique, une manière de faire ça par les notes de bas de page, par les détours, si vous voulez, je pense que c'était ça, cette logique.
Alors, puisque vous avez parlé de Gandhi, on va commencer par ça. Ce grand article sur Gandhi est assez étonnant, parce qu'il y a un désaccord final, mais malgré le désaccord final, il y a d'abord un accord. Un accord avec le pacifisme de Gandhi, avec la volonté de ne pas recourir à la guerre, mais désaccord final par rapport à la violence nazie.
Voilà.
C'est-à-dire, par rapport à la violence nazie, Buber dit, au fond, ça ne sert absolument à rien de souhaiter la paix, quoi.
Voilà. Et les SS, c'est pas des bobies, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il explique bien, il dit les SS, c'est pas des bobies, donc il faut quand même faire un peu attention à ce qu'on fait. C'est pour ça qu'après, il a dit, non, il faut pas me prendre pour un pacifiste, pour un hippie, quoi. Hein. Si je puis dire. Et dans son livre sur Gandhi, Attali a très bien raconté cette histoire-là, parce que Gandhi avait partagé une de ses études d'avocat où avait travaillé avec un juif allemand qu'on connaît bien, avec lequel qu'il a écrit, etc. Et donc Buber a été aussi très très déçu en disant, mais justement, les gens qui ne savaient pas le détail, très bien, mais Gandhi, il était aux premières loges, il savait très bien ce qui se passait, il savait très bien comment la culture allemande allait elle-même s'auto-castrer de ses meilleures parts, et il a effectivement quand même pas compris le danger, et même il a quand même à la fin des textes extrêmement durs, Gandhi. Alors là, il y a 100 volumes de Gandhi en anglais, heureusement, ça doit être dans d'autres langues, et il y a des index. Donc on est quelques-uns à avoir recherché, pas toutes les occurrences. Ah bah
justement, je voulais vous demander quelle était la réponse de Gandhi à Buber.
On l'a pas, bien sûr.
On n'a rien.
On n'a rien, et on ne sait même pas s'il a reçu vraiment ce texte-là. Parce qu'on est en pleine guerre, là. Donc, le temps que ça arrive, où était Gandhi, etc. Donc, j'ai trouvé, parce que c'est l'intérêt, j'ai trouvé un germaniste de là-bas qui est en train de s'occuper de ça et qui est en train d'essayer de savoir si, sinon Gandhi, du moins les gens autour de Gandhi ont entendu parler de ce texte, etc.
J'imagine que Gandhi a été ébranlé quand même
bien
par
sûr,
le texte de Buber.
Absolument. Donc, et pour lui, mais quand même, il y a quand même des textes terribles où Gandhi explique que, comme la France est aux Français, la Palestine est aux Arabes, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment très assertorique, quoi, au lieu de tourner...
Oui, mais c'est pas ça que Buber attaque.
Non, c'est
vrai. Buber, ce qu'il attaque, c'est on ne peut pas être non-violent,
voilà,
avec des gens pour qui la violence est absolument centrale.
Absolument, c'est ce qu'on a demandé à Lévinas quand il parlait de la figure de l'autre, de savoir si le SS et si les gens qui avaient tué sa famille étaient aussi dans la galaxie, si on peut dire. Hein. Mais ce qu'il y a aussi, ce qu'il ne faut pas oublier dans ce texte, c'est probablement l'amour déçu, quoi, hein, parce que vraiment, il y a d'autres textes sur Gandhi formidables. Il a même fait sur Gandhi, je crois, un séminaire en Italie. Enfin, il s'est vraiment beaucoup occupé de Gandhi, et surtout, il connaissait les gens qui traduisaient à l'époque. C'est tout à fait neuf à l'époque. Aujourd'hui, c'est la moindre des choses, mais il avait convoqué à Berlin et à Heppenheim les spécialistes de culture asiatique qui faisaient retraduire les textes avec lui en disant, moi, je connais pas la langue, mais ça doit pas marcher comme ça. C'est pas possible de dire ça.
Alors, il y a un texte très intéressant concernant le guide secret Gustav Landauer.
Voilà.
J'aimerais vous entendre sur ce texte parce que, en fait, ce serait un guide prédestiné d'un nouveau judaïsme.
Voilà.
Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Il a été assassiné en terre étrangère.
Voilà.
Et ce qui compte, c'est que chacune des institutions qui a voulu transformer la vie humaine, voilà ce qu'il disait, la relation des hommes entre eux, chacune de ces institutions est à prendre en compte. Alors j'aimerais que vous me disiez, au fond, quelle est la nature, quel est le rôle de ce Gustav Landauer, que moi je ne connaissais pas, et expliquez-moi, au fond, qu'est-ce qu'il représentait pour Buber.
Alors Gustav Landauer était une personnalité tout à fait extraordinaire. Maintenant, on a les travaux de Michael Levy et d'autres personnes sur ces questions-là. Landauer était bien évidemment un juif assimilé, en même temps un traducteur de Shakespeare, un éditeur de Hölderlin, etc., et en même temps un anarchiste très très conséquent avec lui-même, et il a eu un très grand rôle dans la vie de Boubert, parce que Boubert avait l'impression enfin que là on pouvait avoir un grand spirituel, un intellectuel et quelqu'un qui mettait sa vie en jeu quasiment tous les jours. Et alors ils étaient pendant un moment, ils ont même fondé une espèce de cercle qui s'appelait la Communauté Nouvelle, et à la fin Landauer est celui qui a empêché Boubert que Boubert soit trop longtemps avec le nationalisme allemand, ou comme vous savez, les juifs allemands, comme les juifs français, sont allés pendant la Première Guerre mondiale à la fleur au fusil en disant ben là on va avoir un brevet d'émancipation, et ces français, ces anglais, ces russes, on va leur rentrer dans le chou. Et Landauer a dit à Boubert, mais vous êtes tombé sur la tête, vous savez très bien que ça va mal se terminer. Et très vite d'ailleurs, Boubert a dit à la fin, c'est un juif qui tire contre un autre juif, cette Première Guerre. Mais alors Landauer il est mort en 29 parce que en 19 parce que il a été parce qu'il a été quasiment le ministre de la culture de la République des Soviets, des conseils de Munich, absolument, des conseils de Munich. Et là, si vous voulez, ça a été extraordinaire parce qu'il a demandé à Boubert de venir en disant ben viens avec moi, ça y est, on y est. C'est pas le Messie sur Terre, mais on n'est vraiment pas loin, là. Il va y avoir la République des Conseils. Non seulement il a demandé à Boubert de venir, mais c'était à deux doigts que Einstein vienne aussi, qui était à Berlin à ce moment-là, parce que tous ces Juifs se sont dit, ben voilà, ce qu'on attend, ça va, c'est là. Et Boubert est parti la même nuit quand Landauer a été assassiné. Et alors, après, il s'est occupé de la famille de Landauer, des papiers de Landauer. Ça a été... Il y a aussi ça chez Manesh Perber. Manesh Perber était un des jeunes, comme ça, où il dit...
L'homme de preuve.
Voilà, absolument. En disant, mais si un type comme Landauer a été assassiné, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'ils y ont vraiment cru, quoi. Parce qu'il y avait tout, un peu comme...
Mais il faut peut-être rappeler ce que c'était avec cette République des conseils ouvriers. En fait, c'était un marxisme très, très ouvert.
C'est ça, voilà.
Un marxisme absolument non dogmatique.
Absolument.
C'était un marxisme qui avait pour objectif de faire valoir la démocratie,
absolument,
de prendre en compte, y compris les anarchistes,
absolument,
ce qui était absolument extraordinaire.
Oui, oui.
Alors, ça me permet de vous interroger sur les conceptions politiques de Buber. Parce qu'il y a un petit texte dans ce recueil concernant le culturel et le spirituel. Et on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'anarchie religieuse. Alors vous avez utilisé ces deux mots, anarchie religieuse, pour parler de Buber. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, lorsque vous dites qu'il était un anarchiste religieux ?
Parce que vous voyez bien que sa situation, déjà à l'intérieur du judaïsme, est une situation un peu bizarre, parce que voilà un type qui a porté les tefilines, qui a été pendant 15 ans chez son grand-père, qui connaît la tradition juive comme aucun des gens de la même galaxie la connaissait à ce moment-là, Gershom Scholem, Franz Rosenzweig, tous ces gens-là, c'est des jeunes, c'est des nouveaux venus. Lui, il était, c'est son grand-père, Alemberg, qui éditait des Midrashim, etc. Et d'un autre côté, son opposition au rabbinat institué est bien évidemment notoire. D'ailleurs, ça a été un des problèmes quand il a fallu lui trouver une chaire à l'université hébraïque, parce que les religieux ont dit, écoutez, non, alors lui, c'est quand même pas possible. On peut pas avoir quelqu'un au département d'études juives. Les philosophes ont dit, qu'est-ce que c'est que ce type qui passe son temps à nous parler de Dieu ? Et donc, on a été obligé de lui bricoler une petite chaire, alors qu'il avait été un des premiers concepteurs de l'université hébraïque dès 1902. Donc, si vous voulez, j'ai pensé un peu à Scholem, parce que lui aussi, c'est un anarchiste religieux. Vous comprenez ? C'est des gens qui croient quand même au spirituel, ce qui n'est pas le cas de tous les anarchistes, mais qui est absolument inclassable. D'où d'ailleurs son intérêt pour le chassidisme, les mystiques et tous ces textes-là. Il a quand même passé une grande partie de sa vie à s'intéresser, pas seulement d'ailleurs au tzadikim, mais aussi aux mystiques chrétiennes, etc. Donc ça, c'est que ça le place quand même dans les marges.
Ça signifie quand même que son engagement politique n'était pas net en faveur du sionisme, parce que tout le monde dit qu'il était sioniste.
Oui,
alors comment est-ce qu'on peut dire anarchiste et sioniste ?
Oui, mais parce qu'au début du sionisme, il y avait beaucoup d'anarchistes. Lisez justement l'autobiographie de Berlin à Jérusalem de Scholem. C'est une révolte contre le père, c'est une révolte contre le judaïsme établi, surtout ce judaïsme allemand qui est des Bac plus 15, des prix Nobel, des légions d'honneur sur canapé, et des gens qui détestent le yiddish, qui détestent les Ostjuden. Et donc forcément, là, ça a été une force absolument extraordinaire en disant « faites attention ». Ça, on ne peut pas dire ça comme ça, mais on sera dans le même wagon. C'est-à-dire que vous avez beau être prix Nobel, vous avez beau être professeur d'université, le jour où ça va mal se terminer, on sera quand même tous en même temps. Et c'est la raison. De temps en temps, il disait, moi aussi, je suis un Ostjude. Ce qui était, pour des gens établis à Berlin et à Vienne, l'insulte absolument suprême. Donc c'est comme ça qu'il faut penser cette anarchie.
Mais c'est-à-dire que Buber, il était des deux côtés à la fois, parce qu'il était à la fois du côté de l'établissement. Jusqu'en 38, il est là, il est professeur. Tout le monde le considère comme un grand, grand bonhomme.
Absolument.
Et en même temps, il s'insurge.
Absolument.
Lorsqu'il est...
Vous avez tout à fait raison.
C'est
mais il
n'est
pas seul comme ça. C'est Jean Kelevitch, on en a connu des comme ça. ça. C'est-à-dire en disant, vous savez, bon, les mandarins, d'ailleurs lui-même, quand on lui a cherché une place à l'université, il a dit, vous savez, dans les villages de Palestine, ce dont il y a besoin, c'est d'une bibliothèque et des lycées. Les universités, on l'a toujours, hein, on l'a beaucoup. Alors on n'est pas... Après, comme Nordau, Max Nordau, il disait, l'université hébraïque, c'est du bluff. Les gens, ils ont besoin... Vous imaginez le numéro 2 du sionisme dire ça, en disant, nous, on a besoin d'ingénieurs, d'agronomes, de médecins, et après, on verra. Alors il y a un peu de ça aussi chez Buber.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une confusion chez lui, par exemple, puisque je parle de ce discours de 38, oui, oui. qui est quand même très intéressant pour comprendre l'articulation entre ces deux positions. 38, donc il est à Jérusalem et il prononce son discours, son premier discours comme prof à Jérusalem. Donc il devient, disons, un insurgé contre l'établissement. Et là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « la sociologie est une discipline philosophique ». Qu'est-ce que c'est que ce baratin ? Je ne comprends pas, moi. Je vais vous dire que...
Non, mais ça, c'est formidable. C'est parce que, justement, il ne savait pas où le mettre. Alors, on lui a fait une chaire qui s'appelait « Philosophie de la société
oui. ».
Donc, il n'y avait pas encore... La sociologie est à ses débuts, comme vous savez. Oui. Et celui qui faisait de la sociologie dans le monde sioniste, c'était Roupin. Hein, Arthur Roupin, qui, lui, était un statisticien. Lui, il était venu en 1906-1907, bac plus 15, élève de Zombart, etc. Enfin, le vrai de chez vrai, comme disent les jeunes. Et Buber, qui était très lié avec Max Weber, qui a publié Tenise et tous ces grands sociologues, était quand même aussi très intéressé par ça. Il n'y avait pas de département de sociologie. Vous comprenez, c'est qu'il faut voir ce que c'était. À l'époque, c'était une université privée. Il n'y a pas un rond. Les gens commencent déjà, en plus, elle est très loin. Elle est au Scopus. Il y a déjà l'antagonisme. De temps en temps, on croirait lire les gens qui se fâchent contre l'université. On croirait lire Bibi, quoi, hein, en disant eux, ils sont sur la colline, etc. C'est pas très intéressant. Donc, si vous voulez, sa sociologie est une sociologie philosophique comme celle de Zimmel. Qui est un personnage qui a joué un très grand rôle dans sa vie, qui était professeur de sociologie à Berlin. Professeur, mais tous ces gens-là, à part deux ou trois, n'avaient pas de véritable chair. On a oublié tout ça. Ils étaient honoraires, professeurs, gastprofesseurs, tout ce que vous voulez. Mais l'idée que ça soit... C'est la raison pour laquelle ils faisaient une université hébraïque. L'idée que ça soit des full professeurs payés par l'État... À ce titre-là, ça a été très, très difficile. Alors, ils étaient mathématiciens, biologistes, là, il n'y avait aucune difficulté. Mais dans ces chaires de l'histoire intellectuelle et de l'histoire de la culture, c'était bien évidemment très difficile. Alors, c'est pour ça que c'est une sociologie philosophique. Mais après, moi, j'ai parlé un long moment avec son dernier assistant, qui était Eisenstadt, qui a été le fondateur de la sociologie en Israël. Et il disait, vous savez, il était en plus tellement cultivé qu'il sortait comme un magicien de sa poche des textes comme ça, en langue originale, bien évidemment. Évidemment, en russe, en grec, en anglais, en français, en italien. Et pour lui, il avait réussi à passer toujours dans son alambic la discipline dont il s'occupait. Et d'ailleurs, quand il a pris sa retraite en 51, alors on a dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre à sa place ? Parce que, justement, le département de sociologie commençait à naître grâce à Eisenstadt, et il a écrit à Léo Strauss. Il a dit à Léo Strauss, bon, écoutez, moi, je prends ma retraite, on est en 51. Il écrit à Léo Strauss en disant, bon, écoutez, amenez-vous là. Athènes, Jérusalem, formidable, etc. Et Léo Strauss lui dit, ah ben oui, mais alors qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? C'est quoi ce département ? Et Buber lui dit, mais vous faites ce que vous voulez, de toute façon, personne ne vous embêtera, et continuez de travailler sur ce que vous êtes en
train de faire. Alors justement, c'est extraordinaire, parce qu'il définit la sociologie comme une philosophie, et en même temps, à propos de Platon, ou d'Isaïe, il fait un rapprochement entre Platon et Isaïe. Mais si vous voulez, moi, j'ai relu, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il y a une connerie. Parce que Platon et Isaïe, j'ai du mal à suivre. Et en fait, de quoi s'agit-il dans ce rapprochement entre Platon et Isaïe ? Un peu comme les deux, comme si les deux avaient échoué quant à l'heure nécessaire d'un tournant biographique.
Et d'un autre côté, il les lit tous les deux en miroir, comme quand Lévinas dit la beauté de Sam dans les temps de la sagesse grecque et la pensée des juifs. Il joue aussi avec ça. Et deuxièmement, alors là, justement, l'anarchisme, il n'est pas très loin dans ses livres d'Isaïe, hein, et le lion couchera avec le loup, etc., etc. Je veux dire, on n'est vraiment pas très loin. Et alors, je pense qu'avec l'allusion à Platon, c'est justement, vous le dites très bien, il y a un échec quand même. Le roi ne peut pas être philosophe, quoi. Ça ne marche pas. Hein. Quand un homme fait vraiment de la politique, et bien finalement, il doit abandonner quelque chose. Et c'est peut-être aussi, ça fait trop longtemps que je n'ai pas relu tout ce qui est autour, parce que c'est manifestement contre Ben-Gourion. Pas contre, mais Ben-Gourion, qui, comme vous savez, sortait du Conseil des ministres, ou de ses conseils avec Spinoza et avec Platon, et avait organisé organisait des débats toutes les semaines chez lui avec des philosophes, des théologiens, etc.
Mais Buber en était.
Oui, absolument. Buber en était. Oui,
alors je ne comprends pas comment
mais
pouvait.
Parce que Buber, il en était, parce qu'on ne pouvait pas l'éviter. Buber, c'est une icône, vous comprenez. Quand ils créent l'Académie des sciences, ils disent, bon, on va, c'est naturellement Buber qui va être le premier président. Bon, alors je pense qu'il y a cette. Ce qui intéresse justement Buber, à mon avis, c'est Isaïe contre Platon et Platon contre Isaïe. Au lieu d'essayer de se dire, bon. Plus qu'on a d'un côté la sagesse grecque et de l'autre côté la sagesse talmudique ou de la sagesse biblique, si vous voulez, je pense qu'il y a aussi ça. C'est un peu comme les aimants. Vous voyez, finalement, à la fin, ils se retirent quand même.
Alors, il y a un discours après la Shoah qui est assez étonnant. Il y a d'un côté, il faut rendre à César ce qui est à César. Absolument. Et puis, de l'autre côté, cette idée, au fond, d'une analyse religieuse liée à la situation. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez, parce que le rendre à César, c'est un truc chrétien.
Absolument.
Qu'est-ce que ça vient faire sous la plume de Buber? Est-ce que Buber n'a pas finalement, j'ai cherché ça dans votre biographie, été au fond très influencé quand même par le christianisme?
Ah oui, bien sûr, ça vous avez tout à fait raison, mais comme beaucoup de ces juifs allemands. C'est quand même leur background. On voit bien dans ses lettres à Rosenzweig, quand il traduit la Bible, ils ont bien sûr la traduction de Luther devant le nez. Hein, et Rosenzweig d'ailleurs dit, mais j'ai deux Martins, moi, Martin Luther et Martin Buber, qui sont là en train de traduire la Bible. Bien évidemment, c'est d'ailleurs ce qu'on lui a reproché. Et assez vite, et surtout après. Leibovitz a des méchancetés contre Buber, alors que Leibovitz a joué le même rôle que Buber après la mort de Buber, c'est-à-dire justement le grain de sable, la personnalité qui appuie là où ça fait mal, mais sa culture est entièrement, d'ailleurs, il a fait sa thèse sur Leibovitz, Nicolas Cuse.
Leibovitz était moins influencé par le christianisme que Buber, non?
Oui, c'est vrai, mais quand même, c'est pas à vous, il y a des débats avec Marcel Dubois, il y a des débats avec les chrétiens, mais c'est tout à fait normal, ces juifs de ce coin-là, ils sont au milieu chrétien. C'est pas des autistes, c'est pas des solipsistes, c'est pas des gens qui sont tout seuls. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Et le discours dans lequel ils parlent, et la grammaire qu'ils utilisent, une grammaire chrétienne, ils le disent bien, d'ailleurs. Justement, Rosenzweig a un mot formidable, il dit « on est invité à notre propre table quand on traduit la Bible ». On se demande, il y a du Hölderlin partout, il y a ça, et on fait comment, nous? Donc, et c'est pour ça que cette traduction, c'est un autre débat, est tout à fait formidable, d'essayer de retrouver dans la traduction de la Bible ce qui est de purement, s'il y a un purement juif, ce qui est aussi un autre problème.
Alors, je comprends. Quand il dit « rendez à César » et qu'il reprend ce texte chrétien et qu'il le rapproche, au fond, d'une vision de Dieu sur l'histoire, on se pose la question parce que comment est-ce qu'il peut actualiser une phrase chrétienne? Lui, Buber, qui est quand même, disons, une grande figure juive.
Non, on est d'accord, mais d'abord, encore une fois, il a, tout comme tous ces juifs.
C'est un peu comme s'il y avait un petit Buber chrétien, là, tout d'un coup, qui venait. Un texte très étonnant.
Non, pas du tout, parce que justement, vous expliquez bien, vous avez bien dit tout à l'heure, Les deux manières de croire est un livre très intéressant, mais vous avez vu, il dit il y a toujours un peu de foi chrétienne dans le judaïsme, dans la Emouna, et toujours un peu de foi juive dans la pistis chrétienne. Et c'est ça un des problèmes. D'ailleurs, aujourd'hui, maintenant qu'il y a un État d'Israël établi, une science juive établie, etc. Maintenant, regardez les travaux sur le Zohar. Maintenant, on est en train d'expliquer que dans le Zohar, bien évidemment, il y a aussi un peu, beaucoup, ça dépend si vous voulez agacer le type qui est en face de vous, de christianisme. Et comment y en serait-il autrement? Je veux dire, c'était la langue, la culture dans lesquelles il vivait. L'histoire de rendre à César ce qui est à César, c'est aussi probablement un coup contre la mainmise des rabbins, contre la politique des rabbins, contre la politique, la théologie politique ou la politique théologique. Logique, en disant attention, c'est deux circuits différents, vous ne pouvez pas rentrer là-dedans. Mais c'est vrai, vous avez raison, tous sont comme Rosenzweig, comment pourrait-il en être?
Rosenzweig, c'est autre chose. Voilà. Parce que Rosenzweig, il est tellement influencé par le christianisme que quelquefois on se demande s'il n'est pas plus chrétien que juif.
Mais comment ne pas l'être aujourd'hui? C'est difficile de dire ça parce qu'on nous a un peu, j'allais dire avec toute l'affection, qu'on nous a un peu sornouté la tête, quoi. Hein, on nous a toujours dit ça c'est juif, ça c'est vraiment juif. On dit, mais plaisantez, comment ça c'est juif? Ça, la Gilgamesh, ça, par exemple, j'ai dit il n'y a pas très longtemps à un de mes étudiants, j'ai dit, il y a une cinquantaine de récits du déluge dans la mythologie comparée. Alors vous ne pouvez pas dire, ça c'est typiquement une expérience juive, pas du tout. Ça ne veut pas dire que c'est contre cette expérience juive, mais simplement il y en a d'autres. Donc vous comprenez, et Buber qui connaissait tellement bien, n'oubliez pas que sa chaire était aussi de religion comparée en Allemagne. de religion comparée. Hein. Donc il s'est beaucoup intéressé, et à ce moment-là, on découvre tout. Vous comprenez, on découvre l'Assyrien, on découvre Babel, Gilgamesh.
C'est quand même un texte qui vous met, enfin, lorsqu'on est juif, c'est mon cas, ça vous met un peu mal à l'aise.
Oui,
vous voyez, moi, j'ai été un peu mal à l'aise, je me suis posé la question de ce que ça signifiait. Ouais. Alors par contre, j'étais beaucoup plus à l'aise du texte de 53 au libraire allemand.
Ouais, bien sûr.
Là, il reçoit le prix des libraires, et qu'est-ce qu'il dit, puisqu'il parle de la Shoah, dit, au fond, qui suis-je pour me permettre de pardonner? Il reprend la phrase de Yankelevitch, en disant, moi, je n'ai pas à pardonner aux Allemands. Et là, on voit bien, d'ailleurs, que c'est la suite du discours à Gandhi, de l'échange avec Gandhi.
Vous avez raison, et en plus, c'était, ça, vous savez ça mieux que moi, c'était aussi très courageux de sa part, hein, parce qu'on est vraiment encore tout au début, même pas du rapprochement, mais enfin, les gens, au moment où Adenauer signe avec Ben-Gourion, etc., il y a de la castagne dans la rue, les gens, il y a des manifs épouvantables, on ne prendra pas l'argent des Allemands, etc., etc. Il a reçu un premier prix qu'il n'est pas allé chercher parce qu'il n'était pas là, en 51, et à la Knesset, il y a quelqu'un qui dit, j'ai appris qu'un professeur de l'université hébraïque avait reçu un prix de Hambourg, et c'était, il n'a même pas prononcé son nom. Et coup de bol, si je puis dire, je crois qu'il n'y serait peut-être pas allé parce que c'était 51, il était aux États-Unis, donc il a dit, écoutez, de toute façon, je ne pourrais pas venir. Mais en 53, il a dit, alors là, puisqu'il y a des pourparlers, puisqu'il y a des discussions, etc. Et en plus, comprenez, c'est pour ça que c'est si passionnant, cette histoire de sioniste. Parce que tous ces gens-là, leur langue maternelle, leur culture...
C'est l'allemand.
C'est l'allemand.
Bien sûr.
Vous savez très bien que au premier discours introductif, quand on y avait la délégation allemande et la délégation française, la délégation israélienne, ils sont arrivés chacun par une porte différente parce qu'il fallait pas qu'ils se serrent la main, mais on a demandé dans la délégation israélienne qu'il n'y ait personne qui fume pour éviter qu'il sorte une clope et qu'un Allemand lui tente de briquet. Et ils ont réussi à trouver deux qui étaient dans le même lycée en même temps dans les années 30. Donc on n'en sort pas. C'est pour ça que c'est formidable d'ailleurs. On n'en sort pas.
Alors en même temps, il y a quelque chose de très étrange parce qu'il s'adresse aux Allemands et aux Juifs et il évoque cette rencontre entre les Allemands et les Juifs, toujours dans ce texte de 53. Et il dit « contre l'inhumanité qui s'annonce ». Excusez-moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit « l'inhumanité, elle est derrière, parce qu'elle a déjà eu lieu avec la Shoah ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « contre l'inhumanité qui s'annonce » Il pensait, Buber, qu'il y avait quelque chose de terrible qui avait commencé avec la Shoah et qui allait continuer ?
Je ne crois pas. Je pense que là, c'est plutôt contre le stalinisme, non ? C'est plutôt contre... Il me semble, moi, je l'ai compris comme ça.
Ouais,
je pensais ça, je me trompais pas, parce que là, en 53...
Mais il ne précise pas. Hein.
Non, c'est vrai. Non, vous avez raison. Mais je pense que là, cette idée-là... Est... Parce que justement, c'est vrai qu'on peut lui reprocher ça. Il est trop bienveillant, quoi, en disant bon, ben, on va pas commencer à s'entendre avec les Allemands pour commencer de nouveau à parler de ces choses-là. Alors qu'il l'a fait plusieurs fois. Par exemple, prenons un exemple que les Français adorent, Heidegger. Donc il devait être en même temps dans le même colloque à Munich pour parler de Hölderlin ou quelque chose comme ça. Et il y a la lettre de l'éditeur d'Heidegger qui dit à M. Buber, vous savez, Heidegger aimerait beaucoup, c'est d'ailleurs pour ça, pour rire, vous avez vu dans mon livre, j'ai mis deux photos de Heidegger avec Buber. Et il dit, monsieur Heidegger aimerait bien que vous participiez au recueil d'hommage ou quelque chose comme ça, ou que vous veniez à tel colloque avec lui. Alors Buber dit, écoutez, d'accord, qui était au courant de tout ce qu'on sait, pas tout à fait les cahiers noirs, mais vraiment le reste, hein, c'était clair. Il dit, très bien, mais alors, je veux voir Heidegger tout seul, un quart d'heure, avant qu'on parle de Hölderlin et d'Aristote et tout ça, sans caméra, sans magnétophone, et là, on va parler. Ich und du, je et tu, et là, on va parler. Et puis après...
Ça s'est fait ?
Oh, bien sûr. Et forcément...
Je vous rappelle que la rencontre avec Celan ne s'est pas faite.
Absolument.
Moi, je vous dis ça parce que...
Vous avez tout à fait raison. C'est peut-être d'ailleurs, il a peut-être eu peur de ça. C'est peut-être aussi cela qu'il voulait éviter, etc. Simplement, alors, les éditions d'Heidegger, comme vous savez, on ne va pas passer dans un troisième cycle de philologie allemande, mais ces éditions d'Heidegger, aujourd'hui, c'est tellement le balagan, si vous voulez, qu'on n'est pas à l'abri... que tout d'un coup, on trouve un papier ou un compte-rendu ou une lettre de cette discussion. D'ailleurs, quand il mentionne Buber dans les lettres à sa femme, il est enthousiaste. Parce qu'on pourrait, un pervers pourrait se dire, mais ce que veut nous servir Heidegger avec la pensée Buber est en train de nous servir la même chose avec la Bible. C'est-à-dire en disant, bon, la philosophie, le Dasein, tout ça, c'est un truc de Goyim, tout ça. D'ailleurs, une chose qu'il y avait aussi, si vous vous souvenez bien, dans la Jérusalem de Mendelssohn. C'est-à-dire en disant, mais nous, vous savez, les disputes sur l'immortalité de l'âme, sur tout ça, etc., il n'y a pas de problème, c'est un truc, on vous laisse ça avec les philosophes, etc. Parce que nous, on a autre chose dans la tête. Exactement comme quand Heidegger dit, moi, la philosophie, ça ne m'intéresse pas, mon truc, c'est l'ontologie et l'histoire de l'être. Et Buber, il y a aussi quelque chose comme ça. En disant, bon, vous pouvez faire la philosophie, vous pouvez faire la...
Mais vous croyez que Buber avait tout compris de l'engagement absolument insupportable d'Heidegger.
Tout à fait, parce que très tôt, il avait des gens à lui.
Donc il n'était pas du côté des philosophes français,
non, pas du tout.
Lévinas et autres, qui ont emboîté le pas.
Pas du tout. Dès qu'il a été à Heidegger. Lui, dès qu'on lui a redonné sa retraite, c'est les Français qui ont fait le coup, hein, Janico avait fait deux volumes formidables là-dessus, il y a tout de suite quelqu'un qui lui écrit de Fribourg, où habitait Heidegger, lui dit, mais vous rendez compte, c'est pas possible, Heidegger est de nouveau dans un amphithéâtre, c'est... Non, ça, il a tout de suite vu, alors pas du tout les cahiers noirs, mais il a tout de suite vu que...
Oui, on n'a pas besoin des cahiers noirs pour comprendre.
Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout... Non, mais déjà, le discours du rectorat, c'était quelque
bien
chose
sûr, bien sûr. Discours du rectorat, puis la suite. Et les pratiques.
Voilà. Et puis avant même, quand il est justement...
Dénonciation de ses amis,
voilà,
etc.
Voilà, dès 23-24, l'histoire de Husserl, bien évidemment.
Bien sûr.
Mais quand il envoie les comptes rendus, etc., c'est... Maintenant, on est en train de... On vient de publier l'entretien avec... un texte sur les entretiens de Davos, où il est avec Cassereur. On a une histoire formidable, là. Vous avez le juif allemand... Bac plus 15, comme je les appelle, savant de manière presque irrespirable, là. Et puis de l'autre côté, l'autre qui arrive avec sa tenue de ski, hein, en disant non, mais nous on est dans les chemins qui ne mènent nulle part. Enfin, souvenez-vous, ça a été quand même un enchantement dans nos vies d'étudiants. D'ailleurs, Heidegger disait très bien, en français c'est magnifique. La clairière de l'être,
c'est comme ça que ça a séduit René Char.
Absolument.
René Char, bon.
Absolument.
Bien. Eh bien, merci Dominique Bourrel. Alors, absolument. Je rappelle que ce petit livre, qui contient donc ces textes de Martin Buber, que vous avez préfacé, ce petit livre s'appelle Martin Buber, La souveraineté invisible, perspective sur une humanité qui vient, et il est publié aux éditions de L'Éclat. Et puis votre biographie, Martin Buber, tout simplement, Sentinelle de l'humanité, chez Albin Michel. Merci.
Merci beaucoup.